On y va ?
Bah ouais, hein.
Bon, bah bonjour à tous. Et merci d'être là avec nous pour faire cette petite visite de la Terre à travers le regard d'une série de cartographes tous aussi farfelus les uns que les autres et subversifs aussi. Donc, on est donc Elia
et Alain.
Voilà. Donc, je me présente, je suis graphiste. Donc, je ne suis pas rentré dans la cartographie par la science, mais plus par la lecture des signes, l'usage des signes et la représentation des idées, la transmission des informations, de la communication et tout ça. Quand on a parlé de Terre, j'ai proposé le projet de faire une expo sur la cartographie, en sachant qu'on a beaucoup d'expos de cartographie, mais elles sont toutes un peu pareilles. Elles sont souvent patrimoniales, elles sont souvent orientées vers l'imaginaire, comme celle qui est actuellement à la BNF, et que voilà, ça serait intéressant de rassembler, ce qui est assez rare, l'ensemble des pratiques de cartographie un peu alternatives. C'est pour ça qu'on a appelé aussi l'expo Alternative Cartographie. Voilà.
C'est ça. Moi, je m'appelle Elia et je suis étudiant, enfin géographe, cartographe du coup.
On a fait un appel à tous les cartographes qu'on connaissait, et la grande majorité a répondu avec enthousiasme à l'idée de se retrouver ensemble comme ça dans le périmètre de Concertina.
On est très contents qu'on utilise leur carte. La cartographie, c'est pas juste un outil GPS ou un outil de PLU ou un outil, mais aussi un outil qui permet de visualiser des dynamiques et des enjeux très globaux et locaux. Et du coup, avec toutes les illustrations qu'on a réussi à obtenir de la part de toutes ces auteurs et autrices, on a essayé de les sélectionner pour créer 12 thèmes, à commencer par le premier qui est de ce côté de l'entrée.
Là, il va falloir y aller, il n'y a pas le choix.
Voilà, donc on n'a pas voulu s'étendre sur la théorie de la cartographie, la sémiologie en détail, mais quand même une petite carte pour dire que aujourd'hui quand même les trois quarts des cartes qu'on utilise sont des cartes qui datent du XVIe siècle. C'est le modèle de Mercator, un modèle qui date de presque la colonisation de l'Amérique et de l'Asie. C'est une vision du monde qui est eurocentrée, anthropocentrée, avec des déformations qui sont énormes, du style le Groenland est 14 fois plus gros qu'il est en réalité sur les cartes qu'on utilise couramment, et l'Afrique 14 fois plus petite. Il y a la projection spatiale, mais il y a aussi la projection, l'intention de l'auteur, et il n'y a pas de carte innocente. Hein, c'est toutes les cartes ont derrière un auteur, et il faut se méfier des cartes.
Voilà. Du coup, comme disait Alain, toutes les cartes, elles reflètent un point de vue. Toutes les cartes déforment soit les angles, soit les surfaces. Et du coup, on a cette carte principale qui essaye de représenter la Terre en sauvegardant le plus les angles et les formes. Du coup, là, c'est centré sur le pôle Nord. Et là, on est centré sur le pôle Sud avec la carte dépliante. Et on a toute une petite infographie sur qu'est-ce que ça déforme, qu'est-ce que ça ne déforme pas. Et enfin, on a décidé de présenter une carte un peu spéciale qui représente, selon ces auteurs, la Terre vue des poissons, qui met tous les territoires, nos territoires terrestres aux marges, évidemment, avec l'océan au centre, et qui s'étend sur toute la Terre. Et voilà.
On va la suite ?
On peut pivoter.
On y va ? Donc là, Mondographie, c'est une sélection de cartographies faites par Philippe Rekasevic, donc un célèbre cartographe français qui vit en Norvège. C'est un des fondateurs du service de cartographie du monde diplomatique, ce qu'il il appelle cartographie radicale. Et là, on voit une cartographie qui est numérique, et toutes les autres, elles sont au crayon. D'après ce qu'il raconte dans son bouquin, c'est que dans les années 90, tous les cartographes travaillaient sur un logiciel qui s'appelait Freehand, qui était un équivalent d'Illustrator. Vectoriel, ça n'existait pas encore, les systèmes d'information géographique, et Freehand s'est fait racheter par Adobe, qui avait le logiciel concurrent Illustrator, et par réaction, ils se sont mis à faire au crayon les cartes, et ils sont rendus compte que c'était un outil super intéressant et sans doute beaucoup plus efficace pour rendre compte de certains phénomènes, comme là on voit en bas à droite l'itinéraire d'un t-shirt. qui a une espèce de folie qui est beaucoup plus parlante. Et les deux cartographies du centre, là, qui sont très intéressantes, c'est toute cette articulation entre enrichissement d'un côté, appauvrissement de l'autre. Et il raconte aussi que lui, il a été inspiré par Jean Tinguely.
Est-ce que tu peux décrire juste cette carte-là et faire le lien avec Jean Tinguely ?
Jean Tinguely, lui, il a fait les fameuses machines infernales qu'on voit à Beaubourg. C'est des énormes monstres mécaniques où il fait une espèce de métaphore de la société contemporaine.
Parce que là, ce qu'on voit, c'est comme des rouages. Il y a comme chaque point posé sur la carte est relié à d'autres par des traits.
Là, c'est des courroies d'entraînement. Voilà, c'est-à-dire que l'enrichissement d'un côté amène l'appauvrissement de l'autre. Et c'est une série de cause à effet. Celui d'en haut aussi, c'est autour de la Chine. Une carte est une chose seule, mais plusieurs cartes, ça devient un scénario. Oui. Et on s'est amusé à deux, trois endroits à faire des scénarios. Ici, par exemple, on a sur la gauche donc ce qui est la fabrication, la vente d'armes et l'utilisation des armes. Au milieu, donc ce système des flux financiers. Et à droite, la consommation touristique en haut et la fabrication des t-shirts en bas. Donc c'est un peu un effet d'écho.
Voilà. Après, on peut vous proposer d'aller en face dans le prochain triangle de panneaux.
Est-ce qu'on sera à l'ombre ?
Je pense pas, non. Ah si, il y a un arbre.
Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette expo ?
Mais elle dit qu'elle est super. Je dis, moi je comprends rien aux cartes, mais je suis émerveillée par ce qu'il raconte.
C'est peut-être le début d'une passion.
Très très intéressant cette nouvelle représentation du monde par les puissances, par les liens qui existent. Je trouve ça passionnant.
Que ce soit une représentation subjective, moi je ne savais pas.
Bon, Gaïa. Gaïa, c'est le nom qu'a donné Bruno Latour à son projet d'analyse de l'exploitation des ressources. Alors là, on a deux cartes. Une qui vient donc de Terraforma, qui est un livre qui se concentre sur les empreintes aussi bien climatiques qu'humaines sur la croûte terrestre. Et ici, on a la carte des puissances d'agir, donc qui est en fait une synthèse de toutes les façons d'aborder les événements autour de la croûte terrestre. Cette carte et celle qu'on va voir derrière, c'est Alexandra Arène du bureau SOC qui accompagne Bruno Latour depuis le débarrage de ses expériences de démocratie et géographie.
C'est un objet graphique qu'on peut peut-être décrire aussi. C'est en noir et blanc, il y a des cercles concentriques.
Qu'est-ce qu'on voit dans... Ça fait très scientifique. C'est un peu l'idée d'Alexandra Arène aussi, c'est de mettre en pratique à la fois tout ce qui est cartographie et géographie culturelle, donc les besoins des personnes qui vivent dans les territoires, etc., mais aussi les besoins du territoire en lui-même, en dehors de l'homme, etc.
Du vivant en général,
voilà. Le but de représenter le plus d'informations possibles et d'interactions entre les vivants qui habitent le territoire.
Quelle action produit quels effets ?
Exactement, ouais, c'est ça. C'est des liens entre les choses qui se passent sur le territoire, de façon matérielle. Et du coup, la mise en application un peu des concepts de territorialité de Bruno Latour et toute sa pensée, là on a encore une carte de la même cartographe qui s'appelle Alexandra Arène et de son laboratoire SOC. Donc c'est le laboratoire de doléances qu'elle l'a appelé. C'est une carte qu'elle a fait en collaboration avec les habitants et habitantes de Ris-Orangis dans le 91. Et en gros, l'objectif, c'est de représenter tous les besoins et pratiques de ce territoire par ses habitants et habitantes et de représenter toutes les informations et toutes les interactions possibles entre ses habitantes, mais aussi le vivant qui y est là et toute la matérialité de la ville. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve plein de représentations graphiques différentes.
Le rapport de la précision, du détail au schématique dans la cartographie, il y a un champ qui est tellement grand que c'est passionnant à explorer. Quoi.
Et c'est l'intérêt d'avoir des grands formats du coup.
Ben là, pour le coup, nous, on n'imaginait pas de montrer des cartes qui ne soient pas à l'échelle 1, à l'échelle dans laquelle l'usager consulte la carte. Parce que quand on déplie une carte, on l'a en grand, quoi. En écho à ces deux cartes qui paraissent très techno, mais enfin, qui parlent quand même beaucoup, beaucoup de l'humain, et là, on a une carte dont la démarche est complètement... Enfin, c'est la carte de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes qui a été produite sur place par les militants et avec un groupe de graphistes qui multiples. C'est pas une seule personne qui l'a faite, c'est plusieurs. Et on est là carrément dans le domaine du sensible, de l'expérience racontée. Ça fait aussi graphiquement un objet totalement différent. On est carrément dans l'icône alors que derrière on était dans le signe pur, quoi.
Tu peux donner la différence entre icône et signe?
Bah, l'icône, c'est une représentation, une forme d'image qui représente la chose. Le signe, c'est un objet abstrait, comme par exemple l'alphabet. Et le symbole, c'est un objet qui, par usage, a une fonction de représentation. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le symbole de la France, par exemple. On descend?
Ouais.
Bon, alors là, c'est le clou de l'exposition, parce que c'est une création originale d'Elia qui s'est tapé de collecter le maximum de données sur l'enfermement dans le monde et en France, et qui en a fait la représentation graphique. Donc voilà, je vais le laisser expliquer, voilà. Mais c'est une carte exclusive, inédite, pour Concertina.
C'est ça. Donc je vais revenir très, très rapidement sur chaque illustration. Donc on a d'abord une carte à l'échelle mondiale qui représente les pays et les régions du monde. Donc les pays avec un système de nuances de couleurs sur le taux d'incarcération de ces pays, donc pour se donner un peu une idée de comment on enferme, qui enferme le plus, etc. et les différences dans ça. Après du coup au niveau des régions, donc c'est les cercles que vous voyez qui ont une double représentation à la fois sur leur taille, qui représente leur population, et sur l'épaisseur de ces derniers, du coup qui représente là la population carcérale de ces régions. Après, à sa droite, du coup, la carte elle est accompagnée par un graphique qui représente tous les mêmes pays, qui représente donc à la fois le taux d'incarcération et le taux d'occupation des établissements, donc la densité carcérale de moyenne de chaque pays. Et nous, la France, on est là, en rouge. Voilà. Et du coup, toute la partie inférieure, elle est plutôt consacrée à l'enfermement en France. Donc à droite, on a une carte avec tous les principaux lieux de privation de liberté en France, donc à la fois les prisons, les lieux de rétention administrative et les lieux d'hospitalisation sous contrainte, ceux qui sont listés officiellement par l'État, parce qu'il y en a beaucoup qui sont juste des petites unités dans des hôpitaux, et c'est comme comme dans tous les commissariats, il y a des lieux de privation de liberté, mais on ne peut pas les cartographier, quoi.
Moi, je trouve que c'est super le projet, mais il y a une question par rapport à la représentation des territoires ultramarins,
ouais.
Qui, dans les représentations de la France, sont toujours présentés en isolation, comme s'ils existaient pour eux-mêmes, alors que si on prend par exemple la Guyane en fait n'existe que par rapport au territoire dans lequel elle s'inscrit, et on ne devrait pas la représenter isolée, on devrait la représenter comme elle est ici.
Je suis bien d'accord.
Le premier rapport de la Guyane, ce n'est pas avec la métropole, c'est avec le Suriname, avec le Brésil, puis la population carcérale en Guyane est en très grande partie composée d'orpailleurs garimperos qui viennent du Brésil, quoi. Ouais.
Et oui. Bah, d'où on voit que dans tous les territoires, enfin dans beaucoup de territoires ultramarins, on a beaucoup de CRA et de LRA, donc des espaces de la rétention administrative où on enferme des étrangers et des étrangères.
Donc là, on est vraiment à la frontière de la géographie et de l'art. Bon, on a notre cher ami Guy Ernest Debord, donc qui a produit cette carte en 1957, là, le plan psychogéographique de Paris. Et là, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la cartographie dont on peut parler aujourd'hui, c'est qu'en 57, Debord a déconstruit le plan de Paris. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bon, la cartographie, c'est quand même la propriété du sol, hein. C'est le cadastre, c'est toutes ces choses-là, et où l'organisation administrative. Et donc, lui, il a découpé le plan de Paris en unités d'ambiance, comme il les appelle, c'est-à-dire des lieux où il a des affects particuliers. Donc, il appelle les gens à vivre la vraie vie, c'est-à-dire à exister au temps présent, dans un moment, avec des ambiances. Donc, ce plan, il est quand même assez révolutionnaire. Il y a beaucoup de cartes qui se revendiquent de la contre-cartographie. On a dit, voilà, on a fait une contre-exposition parce que c'est exactement l'inverse du protocole autoritaire, colonialiste, qui est de toute la cartographie qui va jusqu'au 19e siècle, quoi.
Donc ce dernier panneau qu'on a nommé Résistance, il présente la cartographie dans plein de luttes et comme outil de résistance, d'alerte et de communication. Donc la grande carte qu'on voit, c'est la carte des JO de Paris de 2024, qui s'appelle la carte des saccages, qui a été faite par le collectif à la Criée et plein d'artistes et de cartographes et d'habitantes
de la banlieue parisienne, mais aussi de plus loin, parce que cette carte, elle ne représente pas que la banlieue parisienne, même si on voit Paris, Aubervilliers, Saint-Denis, etc. On a les Alpes, on a Marseille avec le début de la flamme. Et donc cette carte, elle représente tout ce que les JO ont impliqué dans tous les territoires français où il y a eu des activités pendant cet événement. Tous les logements qui ont été créés pour les athlètes, qui ça fait 2 ans, plus personne n'habite dedans, personne ne veut y habiter, alors qu'il y a des gens qui dorment dehors à côté. Mais aussi tout le saccage qu'il y a eu de tous les lieux de vie qui étaient là-bas et qui, vu qu'il y avait les JO, tous les promoteurs se sont rués dessus et maintenant c'est que des loyers monstrueux et les gens qui y habitaient ne peuvent plus y habiter. Et sinon, après, du coup, à droite, on a décidé de consacrer cette partie à la cartographie en ligne, du coup, comme outil pour communiquer et alerter sur des sujets, sur plein de sujets. Donc, en bas à droite, on a une carte des caméras de vidéosurveillance à Paris, qui a été faite par un ami à moi et qui est en accès libre et qui permet notamment de se faire un itinéraire dans Paris, donc il y a un système de GPS, quoi. Et on dit, on va aller d'ici à ici, et il nous dit toutes les caméras qu'il y a sur notre chemin, combien il y en a, quels sont les types, etc., etc. Parce qu'évidemment, la préfecture, vu que c'est des obligations légales, sont obligées de dire en accès libre où sont les caméras, si elle le veut bien. Après, à gauche, on a une carte des victimes et des faits de violences policières en France, depuis les Gilets jaunes surtout, mais aussi avant. Après, on a une carte du collectif.
Est-ce que vous avez un coup de cœur sur toutes ces cartes ?
Alors, peut-être celle sur Gaïa, parce que je trouve qu'elle laisse une place incroyable à l'imaginaire. On peut s'en emparer et se mettre dedans et se dire, et devenir acteur dedans, en fait, se dire ah oui, là je peux agir, ou là je peux, et ça a telle conséquence. En fait, j'ai adoré celle-là. Après, il y en a d'autres, il faut que je creuse, parce que ça demande beaucoup de temps de se plonger dedans et la vue, mais j'ai beaucoup aimé celle-là. Oui.
Un coup de cœur, oui, peut-être celle sur l'enfermement qui a été faite par Elia. Après, j'adore le concept parce que à la fois ça accumule plein de détails, plein de chiffres précis, et à la fois ça redonne une vision très large. Je trouve ça passionnant.
Vous êtes friand de cartes ? Vous êtes
Non, pas du tout, pas du tout. Je découvre. Non, vraiment. Je suis intéressé maintenant, en fait. C'est-à-dire, je vais aller me plonger un peu plus là-dessus. Je découvre. Super. Je suis ému même.
Merci beaucoup. C'est des mois de travail, tous les deux. C'est magnifique. Super.